Bonsoir Aude Lavigne, on vous retrouve lundi soir à 20h55. Bonsoir à toutes et à tous. Are you racing or watching? Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching? La dispute. Ce soir, la littérature. Ce soir, Éric Loret et Philippe Chevillier se font face à notre affiche et à notre sommaire. 13 façons de voir de Colm McCann. J'enquête de Joël Egloff, le plus et le moins d'Eri De Luca et Black No More de George S. Schuyler. Vers 21h20, Émilie Chaudet nous livrera la revue de presse culturelle quotidienne de la dispute. Encore des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir. Des invitations pour la représentation de Hunt de Howard Barker, mise en scène de Jacques Vincé avec Nathalie Dessay. Place à gagner pour mercredi 25 mai à 20h à la Comédie de Valence. Enfin, nous avons rendez-vous avec le musicien et compositeur Bachamar Khalife qui est toute cette semaine l'invité de la dispute. Et nous ouvrons cette dispute avec l'auteur irlandais Colm McCann, que j'avais reçu cette antenne en 2009, alors que sortait et que le vaste monde poursuive sa course folle chez Belfond déjà. C'est un roman qui rejouait plusieurs fois les mêmes scènes, selon le point de vue d'un nouveau personnage. 13 façons de voir, c'est le titre de ce nouveau livre qui comprend en fait ce que les anglo-saxons appellent une novella, un court roman, tout de même 160 pages en 13 chapitres, et 4 nouvelles. C'est le premier long récit qui donne son titre à l'ensemble, traduit par Jean-Luc Piningre.
That beneath your many masks, there in the darkness deep within, I feel victim to your past. And I have lost, and you have taken, and I have learned the hardest way. My heart is breaking. The price I've had to pay.
Vous écoutez l'Eurovision sur France Culture dans The Price I've had to pay, le prix que j'ai eu à payer de Marina Kaye. Je soupçonne, Philippe Chevillier, que vous avez choisi ce livre de Colm McCann uniquement pour que nous puissions entendre un peu de cette chanson.
Évidemment.
Évidemment. Bon, c'est pas la seule raison. Quelles sont les autres pour commencer, Philippe?
Alors, Colm McCann, c'est notre Irlandais de New York, comme on disait, de English in New York, de Sting. Et il a passé une grande partie de sa jeunesse en Irlande. Maintenant, il vit à New York. J'aime cet écrivain qui est assez singulier dans la mesure où il fait des livres à la fois très accessibles, assez classiques, hein, un gros livre, surdoué, avec ces moments de... C'est en même temps un écrivain très sensible, qui a des passages assez fulgurants. Cela, il me fait penser un peu à Michael Cunningham. Et donc jusque-là, moi, j'avais lu des romans. J'avais The Lee, Le Danseur, etc. Et là, donc c'est la première fois que je lis des nouvelles. Ça m'a beaucoup intéressé. Alors, il faut savoir qu'au départ, il y avait 13 nouvelles de prévues. Et que c'est lui, avec l'éditeur, qui a élagué pour qu'on se retrouve avec cette novelle-là et ces quatre autres nouvelles, qui ont toutes en commun d'être, de traiter du problème de la violence. Dans la première, donc, on a ce vieux juge Mandelson en fin de vie qui va retrouver frappé dans la rue en allant au restaurant. Ensuite, on a l'histoire de cette soldate en Afghanistan, une espèce de conte de Noël, on en reparlera peut-être. Ensuite, dans Shkol, c'est l'histoire d'un enfant russe adopté assez mal en point et que sa mère perd sur une côte irlandaise. La violence de la perte de l'enfant qui disparaît, puisque Shkol, ça veut dire le pape. Parent qui a perdu un enfant en hébreu, et une religieuse qui reconnaît son tortionnaire dans la jungle colombienne 37 ans après, l'homme est devenu en fait un négociateur et un homme politique très sympathique, entre guillemets. Et enfin, l'agression dans un quartier déshérité, l'agression d'ouvriers roumains par un jeune junkie. Donc à chaque fois, on a...
Tout ça est très sympathique.
Tout ça est très sympathique. Alors, c'est
très léger.
C'est assez curieux. Quand vous demandez à Colm McCann, vous lui dites, mais c'est très noir, il dit, ah bon. il reconnaît que c'est noir, mais il dit en tout cas qu'il ne veut pas être submergé par la noirceur, qu'il espère que dans chacune de ses nouvelles, il y a un peu de lueur. Et c'est vrai, c'est ce qui fait aussi qu'on a... l'intérêt à les lire, c'est-à-dire qu'on retrouve le talent du conteur, on retrouve cette violence qui est racontée de façon sans concession, avec beaucoup de justesse, d'une manière fulgurante, et en même temps on a à chaque fois, et ça c'est ce qui me plaît chez cet auteur, cette compassion qui se voit chez les personnages, ne serait-ce que dans la première nouvelle, la déchéance du vieux juge, il est en train de mourir, et cette déchéance elle est racontée de façon assez digne, avec des flashbacks, avec beaucoup de et donc cette compassion et en plus la solution, parce qu'on ne racontera pas la fin de la nouvelle, mais on voit que cette violence n'est peut-être pas tout à fait gratuite, et la façon dont c'est raconté, je trouve que c'est très humain. L'affection douloureuse de la mère pour l'enfant russe, le regard effrayé de la jeune femme qui voit l'agression raciste dans l'autre nouvelle, à chaque fois on se raccroche à ça, et dans un style que je trouve très beau.
Voilà. Bon, pour un premier regard, Éric Loré, est-ce que vous avez adhéré à ce recueil de Colm McCann? Sans dubitatif, hein.
Mais non, pas du tout. On peut être absolument d'accord sur le diagnostic et reconnaître les mêmes éléments littéraires, une certaine virtuosité. Il y a un certain nombre, effectivement, de phrases que j'ai soulignées tout du long qui sont de vraies trouvailles littéraires. On aurait cru qu'il s'était habillé à la troisième personne pour décrire un personnage, par exemple, qui est un peu, comment on imagine, à côté de ses vêtements. Bon, évidemment, Shkol, comme l'a évoqué mon collègue, il n'y a pas d'adjectif à part en hébreu pour parler de parents dont les enfants sont morts. Donc il y a cette idée d'une catachrèse permanente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mots pour... il faudrait récupérer d'autres mots pour parler des choses à un autre endroit... Un autre individu est dit un triste vide-grenier d'individu, ce qui reprend un petit peu celui qui s'habille à la troisième personne. Bon, un grand intérêt dans son écriture pour la machine écrivante. Ah, je fais du vent avec les pages que je tourne.
Le micro est très sensible.
La prochaine fois, je demanderai un PDF, en fait.
C'est ça. Sur notre tablette, il y aura moins de vent. On va dire ça comme
donc
ça.
Donc, j'ai apprécié au début... Alors, je suis content de savoir que les 13 façons de voir, en fait, c'est parce qu'il y avait 13 nouvelles et qu'elles y sont plus. Je ne comprenais pas très bien. Je pensais que c'était à cause des 13 caméras installées.
Oui, je pense.
J'ai le juge, j'imagine que c'est la raison quand même de la première...
Il y a 13 chapitres en même temps dans la première nouvelle.
De la nouvelle 1. Les effets de décadrage en quelque sorte, ou de focalisation remuante, puisque 13 façons de voir, la novella commence à la première personne, on se croirait dans un récit un peu de la Mittel-Europa, quelque chose d'un peu bernardien sur un vieux ronchon qui parle tout seul, qui ratiocine, même si on sait dès le début qu'il est sous un regard externe, et puis tout d'un coup il y a un passage assez assez virtuose du point de vue de l'écriture, où on passe au il sans qu'on s'en rende vraiment compte, c'est-à-dire que on est sorti du seul point de vue de ce vieillard pour se retrouver comme ça, regardant son corps dans son qui a du mal à se mouvoir, parce que lui sinon il ne le dit pas. Donc tous ces effets-là, toute cette construction, j'ai été assez sensible dans la nouvelle sur Effectivement, la soldate, c'est un écrivain en fait qui est en train de raconter comment est-ce qu'il pourrait faire pour tirer des larmes, etc. Bon, malgré tout, je l'ai lu il y a 4 jours et je me suis rendu compte avec horreur avant de venir à l'émission que j'avais absolument tout oublié.
Ah.
Mais alors pas une ligne, pas, je sais même pas de quoi ça parle. Donc heureusement.
Heureusement que vous avez pris des notes et que vous avez corné des pages.
Non, j'ai tout lu, j'ai corné des pages. Donc
non, mais ça, heureusement.
Alors,
attention en tournant les pages.
Il y a, oui, il y a des choses assez amusantes. Ce juge, par exemple, quand il raconte. Puisqu'on l'a dit, il est quand même assez drôle. Hein. Enfin, c'est un grincheux. Quand il parle de l'époque où il exerçait, il se demande comment le système pouvait fonctionner avec tant de gens alcoolisés qui ne savaient plus tenir leur langue, puisqu'ils picolaient tous avant de se mettre à travailler. Et donc, il y a un côté aussi satirique. La description qu'il fait de son fils, il dit, mais qu'est-ce qu'il a avec ces espèces de gros yeux bleus ces gros yeux bleus, on dirait une caricature. Bon.
Donc du plaisir à la lecture et un oubli ensuite.
Oui, alors je peux dire pourquoi en fait, je le sais, mais même en le lisant, c'est-à-dire ce sont, comme l'ont dit les critiques éclairées qu'on trouve sur la quatrième de couvre, des destinées, et en fait moi ça m'intéresse pas du tout, c'est-à-dire des histoires construites effectivement dont on sait à peu près où elles vont, même s'il fait un effort je trouve remarquable pour donner l'impression qu'il y a du jeu. Mais en fait moi ce jeu, même si j'ai senti justement d'une certaine façon laborieuse il cherchait à l'installer, à faire remarquer que oui ça jouait, on savait pas trop bien où on allait être surpris, ça a pas réussi à susciter moi en tout cas mon attente pour la novella. Bon bah une fois que j'ai compris comment ça fonctionnait, les caméras, on sort du camp, on rentre dans le corps, ça grinchouille, tout ça, bon à la moitié j'en avais déjà assez et d'une certaine façon, assez logiquement, plus c'est court et mieux je trouvais ça, en fait.
Donc si, il aurait valu un vrai recueil de nouvelles de Colin
McCann,
il y en a eu d'autres.
Si bien que la toute dernière, c'est pratiquement la meilleure, en fait, avec les... avec l'attaque comme ça, extrêmement brève, un petit peu, enfin presque hors champ, quoi, du roumain par ces jeunes désœuvrés.
Bon, vous entendez... Voilà, le ressenti de votre camarade et
oui, mais Philippe Chevillier. Je comprends. En même temps, je pense que moi, que j'ai beaucoup aimé ces nouvelles. Je préfère quand même ces romans. Je trouve qu'il y a, parce que justement, les puzzles qui se construisent, les destinées qui se croisent, à un moment donné, font des espèces de. Il y a plus d'intensité. Moi, ce qui m'a intéressé, j'aime quand même ces histoires parce que je trouve qu'il y a cette sensibilité qui nous les fait et qui nous fait quand même un panorama encore une fois de ces violences, hein, qui sont sociales, qui sont sexuelles, qui sont politiques. On a vraiment et à chaque fois une tentative d'essayer de trouver comment l'humain peut se sauver de cette violence. C'est intéressant aussi. Alors on raconte ça dans le dossier. C'est cette idée d'autobiographie. Lui, il s'était juré de jamais écrire de roman autobiographique et puis il avait pratiquement terminé ses nouvelles quand il s'est fait attaquer en fait. Enfin, il a défendu une femme qu'il a attaquée, il s'est fait agresser lui-même. Il dit au fond, on est rattrapé quand même, l'écrivain qui veut faire le malin en disant il ne va pas parler de lui, en fait, il parle quand même de lui, du monde tel qu'il voit forcément, et donc de lui-même à travers ses personnages. Donc ça, j'ai...
Ou alors, à force d'écrire des choses, elles vous arrivent.
Hein. À force d'écrire hein aussi.
Il y a quand même ça aussi.
C'est quoi, abominable, affreuse, elle finit par t'arriver.
Oui.
Et encore une fois, justement, lorsque vous citiez la dernière nouvelle, je trouve que pour exprimer... Alors, en réponse d'ailleurs à ce livre que moi j'avais trouvé remarquable, qui était Zoli, qui était vraiment un livre très romanesque, mais qui racontait un petit peu le destin des Roms, à un moment donné, en fait, Colin McCann s'était dit, je vais pas refaire encore de grandes sagas sur une histoire après Le Danseur consacré à Nureyev, et ben il a pris tout d'un coup, il était sensibilisé à ce problème, il a fait une vraie saga de l'histoire des Roms, et quand on voit de la façon lyrique et très belle dont est racontée cette histoire, avec toute sa dimension, toute son intensité, et qu'on voit cette petite nouvelle très courte, on voit des Roms, des ouvriers roumains attaqués, je trouve que c'est une réponse qui fait peur et qui est assez saisissante. C'est pour ça que ça me concerne et ça me touche, au-delà d'une forme assez classique, encore une fois, virtuose, mais assez classique.
Alors c'est vrai que moi j'ai pas encore lu de recueil vraiment de nouvelles. Il y a ces 4 là dont on a parlé. Moi que effectivement j'ai préféré les 4 nouvelles plutôt que la novella. Alors que le livre que j'ai cité tout à l'heure, pour un fait exprès, que le vaste monde poursuive sa course folle, faisait exactement ça. Il prenait des destinées communes et puis il faisait se rejoindre autour de cet événement qui était la traversée des Twin Towers au moment de leur édification par le funambuliste Philippe Petit. Et à un moment donné, voilà, tous les personnages se retrouvaient en lien avec ce moment très très spectaculaire dans la vie new-yorkaise, et je trouve qu'il y avait effectivement, c'est ce que vous disiez pour les autres romans, Philippe Chevillier, cette façon
de faire des comme des gros plans sur des personnages et d'arriver tout d'un coup à élargir le cadre et au contraire et après de le resserrer sur ces différents personnages, ce qui m'a semblé moins marcher finalement dans la dans la novella qui donne son titre à 13 façons de voir, cette histoire du juge, voilà, qui est effectivement un peu systémique, quoi, dans sa construction, dans son écriture.
Qui, à mon sens, est beaucoup plus un polar, pour le coup, ça l'emporte, c'est-à-dire qu'il y a effectivement le caractère, quoi, le portrait de ce vieillard, tout ce qu'on a dit, grincheux, littération, tout ça. Et puis, quand même, je trouve l'intérêt, ou l'intérêt pour ceux qui n'aiment pas ça, de l'intrigue policière,
l'emporte. Who done it and why?
Voilà, oui. Assez vite avec une belle scène d'interrogatoire
McCann aussi je trouve une qualité quand même on dirait filmmaker pour le cinéma, je sais pas quel serait l'équivalent pour le différencier des vrais cinéastes, il est faiseur d'histoire et je trouve qu'il y arrive bien. Moi j'ai jamais lu en anglais Colm McCann, il est traduit depuis le début je crois par Jean-Luc Pinaigre chez Albin Michel, voilà, c'est une efficacité
chez Belfond,
je sais plus ce que j'ai dit, mais c'est chez Belfond, oui. Il y a une efficacité de la langue, et effectivement, les trouvailles, quelques-unes que citait Éric Loret, il y en a quand même un certain nombre dans le texte qui font aussi ma joie. Voilà ce qu'on avait envie de dire ce soir sur 13 façons de voir. Vous vouliez rajouter quelque chose,
Éric Loret ? On apprend des mots, en fait. Merci aussi aux traducteurs, parce que, par exemple, cantonnière, moi je savais pas ce que c'était, eh bien, je l'ai appris.
Oui, cantonnière. Quand on vous écoute, on en apprend des mots aussi, hein, Éric Loret.
Donc ça a à voir avec les rideaux, hein, c'est pas...
pas avec la femme du cantonnier.
Non, c'est ça.
Sur la route de Louviers. 13 façons de voir, Colm McCann, publié chez Belfond, dans une traduction de Jean-Luc Pinaigre.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Nous parlerons tout à l'heure de Joël Egloff, mais avant cela, nous retrouverons l'invité de la dispute, le musicien Bachar Mahalife. Nous évoquerons aussi Black, No More de George S. Schuyler et Le plus et le moins d'Eri De Luca. Des plus et des moins, il y en a plein dans la revue de presse culturelle quotidienne de la dispute avec Émilie Chaudet. Bonsoir, chère Émilie.
Bonsoir, Arnaud, et bonsoir à tous. Notre camarade Corinne Rondeau a dit une phrase avant-hier que j'ai trouvée parlante et que j'ai notée quelque part, gardée en tête en tout cas. Elle disait que les musées devaient aussi convoquer les morts. Et il semble que la littérature, elle aussi, convoque les morts souvent, particulièrement en ce moment, si l'on en croit à la presse, comme s'il était important de se rappeler que les grands écrivains ne peuvent jamais vraiment mourir et se conjuguent toujours un peu au présent. Voir au futur, comme le titre cette pleine page du dernier Monde des Livres, signé Florence Bouchy, Georges Perec en écrivain d'avenir, c'est le titre, car l'année prochaine, Georges Perec sera l'un des nouveaux noms de la Pléiade, et à cette occasion, son tout premier roman jamais publié verra le jour. Il s'agit de l'attentat de Sarajevo, un texte de jeunesse selon les mots de la journaliste du Monde, un galop d'essais écrit au galop selon les mots du professeur de littérature Claude Burgelin, dans la préface du futur ouvrage. Texte que l'auteur de La vie mode d'emploi a fini d'écrire à l'âge de 21 ans en 1957. Un refus des éditeurs qui, apprend-on dans cet article, l'incite néanmoins et heureusement à persévérer. L'histoire, c'est celle d'un narrateur inspiré de sa propre personne, bien décidé à en découdre avec un rival amoureux à Sarajevo, juste avant la Première Guerre mondiale, pour conquérir la femme qu'il aime. Une intrigue abracadabrante, note Florence Bouchy, mais déjà empreinte de l'autodérision et de l'ironie que l'on connaît bien à l'auteur. Et ce qui interpelle en cette période un peu agitée qu'est la nôtre, c'est l'actualité de la note d'intention de Georges Perec qui accompagne son texte et qui est rapportée dans Le Monde des Livres, je la cite. Qu'importe si l'attentat de Sarajevo apparaît aujourd'hui comme une date maudite, pour ceux qui y ont participé, c'est le jour inoubliable où ils ont prouvé au péril de leur vie qu'ils voulaient vivre, vivre libre. C'est une jeunesse pleine de courage qui fait éclater d'un coup les barrières qui l'empêchaient de grandir. Mais éloignons-nous un tout petit moment des livres pour nous intéresser aux auteurs que l'on enterre encore, des morts qui ne datent pas d'hier et qu'on célèbre pourtant comme s'ils appartenaient à notre époque. Le Figaro rapporte un reportage de Bertrand Guyant de l'agence France Presse. Le journaliste raconte entre autres, l'hommage qui s'apprête à être donné ce dimanche en l'honneur de Gabriel Garcia Marquez. Les cendres de l'écrivain reposent depuis quelques jours seulement à l'université de Carthagène en Colombie. L'auteur de 100 ans de solitude, prix Nobel de littérature en 1982, est pourtant décédé depuis 2 ans et il reposait à Mexico où il avait vécu pendant 30 ans avec son épouse, nous raconte Robert Tranguillard. C'est son fils qui a fait les démarches afin de ramener les cendres de son père, là où il est né, dans un pays qu'il aimait, selon ses propres mots. Un monument dont il sera inauguré en cette fin de semaine à Carthagène. Un scénario plus rude entoure celui de la sépulture d'un autre homme de lettres d'Amérique latine, Pablo Neruda, qui s'apprête à être enterré pour la 4e fois, nous apprend Paolo Panaragua du Monde. Le poète chilien avait de l'humour, mais n'aurait sans doute pas apprécié, écrit le journaliste. Pablo Neruda est mort il y a un peu plus de 40 ans, d'abord rejeté du caveau familial en 1974, période de dictature, pour être enterré dans un cimetière plus discret de Santiago. Après la chute de Pinochet, un hommage lui sera rendu lors d'une inhumation à la Isla Negra en 1992. Enfin, sa dépouille sera à nouveau exhumée en 2013 à la demande du Parti communiste chilien pour éclaircir une bonne fois pour toutes les rumeurs, des rumeurs d'empoisonnement, soupçons écartés après analyse. Après ses derniers examens, Pablo Neruda a pu retrouver une dernière demeure définitive à la toute fin du mois d'avril dernier, selon les informations données par le journaliste Pablo Panaragua. Cérémonie d'enterrement 4e, sous les acclamations de militants communistes chiliens, camarades Neruda, présents, maintenant et toujours. Présents, maintenant et toujours, c'est donc l'un des privilèges des grands écrivains avant et après la mort, et nul besoin, a priori, de changer de caveau plusieurs fois. Dans le portrait que nous livre Pascal Nivelle dans le magazine M de Bernard Pivot, on retrouve toute une constellation d'écrivains qui font revivre le temps d'un verbatim, les émissions cultes, apostrophes et bouillons de culture. Ainsi, dans les lignes de ce portrait se bousculent les noms de Marguerite Duras, Claude Lévi-Strauss, Roland Barthes, Louis Aragon, Serge Gainsbourg, Guy Béard, et la liste est encore longue. Bernard Pivot, qui parle entre autres de sa passion pour Twitter, mieux que les mots croisés, dit-il, pour entretenir le cerveau. Il parle aussi de son mot favori, aujourd'hui. Aujourd'hui ne meurt jamais. Et puis il évoque le succès de ses émissions littéraires qui a traversé, je cite, la privatisation, l'effet Canal+, 3 présidents de la République, et qui ne s'est arrêté qu'avec sa démission. Pascal Nivelle raconte en effet comment Marguerite Duras a triplé les ventes de L'Amant après son passage dans Apostrophe. L'assistante de l'ancien présentateur Anne-Marie Bourgnon explique dans cet article que des attachés de presse ont été renvoyés de leur maison d'édition pour n'avoir pas réussi à décrocher un passage chez Pivot. Un succès que l'écrivain Georges Semprin expliquait de la manière suivante, le fait que Bernard Pivot n'ait pas fait d'études et aborde les sujets avec fraîcheur. Aujourd'hui, Bernard Pivot ne s'encombre plus d'obligations, il ne donne plus de conférences, ne lit plus de manuscrits. Quand le téléphone sonne, écrit le journaliste Pascal Nivelle, c'est un écrivain qui a disparu. Pivot a toujours un mot à dire en ces circonstances. Le jour où je mourrai, les journalistes vont avoir le réflexe de m'appeler. Jolie pirouette de Bernard P. qui conforte les grands écrivains, de même que l'amour de leurs livres, dans une forme d'immortalité.
Merci, Émilie Chaudet, dire que c'est déjà la dernière revue de presse avant qu'Antoine ne revienne. Bon. L'avenir.
Je suis contente pour vous que Antoine revienne, cela dit.
Non mais oui, on est ravis. Enfin, il est encore sur la croisette
à
l'heure
où
nous parlons.
Je ne vous aurais quitté que bien plus tard si, si je pouvais.
Bon, on essaiera de vous faire de la place dans les temps qui viennent, allez savoir. Bon, beaucoup de choses, beaucoup de noms. Bernard Pivot et Twitter, Philippe Chevillier, qui est un twitto assidu.
Ouais, oui, je le retweet de temps en temps, j'aime bien. Oui, ses tweets sont très bons.
Pas tous, hein.
Pas tous, mais d'abord je le suis pas quand même heure par heure, mais je suis tombé
sur... Oui, parce que c'est un emploi à plein temps, j'ai l'impression.
Il y en a un que j'avais bien aimé de lui, de Bernard Pivot, c'était un tweet qu'il avait fait en disant, il avait écrit « À chaque fois qu'un avion à banderole passe dans le ciel, j'espère y lire Bernard P, je vous aime.
» Bon, c'est avec elle.
Oui, sûrement, la twitterature, ce qui est bien, c'est de lire un fil comme ça, où les petites phrases s'enchaînent et ça finit par faire un roman, donc finalement il aura quand même été... Un grand romancier, d'une certaine façon.
Bon, puis il y a la Manstein aussi, hein, à propos de tweets et de littérature.
Oui, il y en a plein.
Mais tweet-mac, Joyce Carol Oates, quand même.
Ah oui, non, mais Joyce Carol Oates, déjà qu'elle écrit des chefs-d'œuvre tous les 6 mois, et en plus, elle tweet beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est quand même, je ne sais pas, elles sont plusieurs. Moi, c'est un mystère, Joyce Carol Oates.
Il y a ceux aussi qu'on a été obligé de mettre en silencieux, parce qu'ils tweetaient toutes les 10 minutes.
C'est vrai.
C'était plus possible.
Bah là, la liste de noms est trop longue. Non, mais ouais. Par contre, il y a eu d'autres beaux noms dans cette revue de presse. On a hâte de lire, bon, il y a eu le nom de Corinne Rondeau, pour pour commencer. Mais Georges Perec, c'est un drôle de choix, effectivement, de publier un roman jamais publié pour cette édition en Pléiade. Alors, j'ai évidemment envie de le lire, hein, parce que j'aime évidemment aussi beaucoup Georges Perec, mais en même temps, je sais pas à qui appartient la décision, sans doute... n'avait-il pas donné de consigne et que cela soit possible? Vous en pensez quoi, Éric Loret?
C'est un bonus pour faire acheter, mais oui, après, je sais pas, les ayants droit ont probablement.
Mais l'envie de lire, oui.
Oui, oui, bien sûr, tout le monde a envie de le lire. Après, on imagine que ça n'a pas été désavoué formellement par Perec de son vivant.
Bon, on sera peut-être là pour faire une dispute quand cette Pléiade sortira. Philippe Chevillé, c'est toujours important, les Pléiades, mais se faire enterrer 4 fois, c'est quand même quelque chose de pas souhaitable. Moi, j'ai très hâte de voir le film de Pablo Larraín, hein, consacré à Neruda, visiblement qui n'est pas forcément tendre avec l'écrivain.
Ouais, j'y vois une volonté plutôt de résurrection. On veut les ressusciter les écrivains. Alors les morts, ça nous rythme en fait, évidemment, journalistiquement, on fait des dossiers, Mais je pense aussi que célébrer ce côté immortel de littérature et ses anniversaires, ses commémorations, ça permet d'entretenir une lecture, parce que c'est vrai qu'après on lirait les classiques au lycée, à l'école, il y a des gens qui tout d'un coup peuvent se replonger dans une œuvre formidable. Donc je trouve ça toujours, quand Perec va sortir, par exemple, il y a plein de gens qui vont découvrir ou redécouvrir. Donc c'est toujours ça. Et puis cette immortalité des auteurs, ça donne le sentiment de sa propre immortalité. On se dit, finalement, on vieillit, mais il y a toujours les choses restent. Il reste ces grands auteurs, il reste cette grande musique. Ça nous entretient, ça nous énergise.
Éric Loret ?
Non, c'est vrai, sur l'idée même du grand, je me disais que c'était un phénomène qui touchait beaucoup la musique classique, avec les ressorties de coffrets, d'interprètes en particulier, mm-hmm. qui peuvent avoir été oubliés peut-être par les mélomanes les plus jeunes. La littérature aussi, c'est moins vrai pour le cinéma, il me semble, aujourd'hui. C'est-à-dire, oui, il y a les grandes rétrospectives à la Cinémathèque, mais on n'aura plus des ressorties. Lorsque Rivette est mort, moi j'ai rencontré des gens qui sortaient d'école très bien, qui savaient pas qui c'était. Donc c'est une autre marchandisation là du bien culturel qui fait qu'on est moins dans la commémoration, par exemple.
Oui, il y a un cap à passer. Il y a les Fauvettes à Paris qui a ouvert et qui a pour but de montrer des films. Alors vraiment du répertoire, on va dire, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de films qui aient moins de 40 ans, mais c'est bien de les voir sur grand écran, effectivement, du Vivier dont on a parlé ici.
Mais du coup, ça me semble plus réduit ou confiné à l'idée de classique, comme les chaînes américaines, c'est American Classics, mais on va pas vous faire des séries sur John Wayne ou que sais-je, ou Jarmusch, ou ce sera c'est une espèce de bibliothèque disponible tout le temps, mais dans laquelle rien n'est forcément choisi, quoi.
Oui, je pense. Et après, il y a effectivement dans le cinéma, il y a les rétrospectives par genre. Il y a des gens qui peuvent être fanas, par exemple, de fantastique. Oui, donc ça, on peut ressortir les vieux films. C'est plutôt des gens qui sont dans des niches, en fait. Mais ce que vous disiez sur le cinéma, effectivement, à l'heure actuelle, en tout cas, c'est pas du tout le même phénomène que la littérature. Les morts dans le cinéma, les morts dans la littérature.
Non, mais il y a l'édition des DVD, heureusement, de plus en plus soignées et formidables, et qui permettent de voir des choses. Ou revoir ou découvrir même des choses formidables, Éric Loret.
Non. Là encore, je vais être contrariant. Ouais. Il me semble que l'effondrement du CD, du DVD, de tous les supports physiques fait que ça concerne beaucoup moins, là encore, le cinéma que le livre. Moi, je connais personne qui achète des DVD. Tout le monde télécharge. Alors, on peut télécharger sur certains sites, effectivement, l'intégrale Hussia Hussien, si on veut, par exemple, sous-titré en espagnol, en anglais, en italien, tout ce qu'on veut. Mais en DVD, ce sera quand même beaucoup moins facile.
Ouais, mais il y a quand même de bons éditeurs qui font de belles éditions pour qu'on ait envie.
Oui. Il me semble que l'état du marché et de la consommation est un peu différent de ce qu'il peut y avoir pour l'instant.
Vous avez raison. Bon, Gabriel Garcia Marquez, vous êtes des lecteurs, vous, de Garcia Marquez? Moi, j'avoue que ça fait partie de mes impasses un petit peu, mais parce que la littérature est si grande. Fait partie de votre panthéon, messieurs, Éric Loret?
J'en ai lu un en espagnol, bilingue, il y a 2 ans, j'étais très content.
C'était quoi?
C'était Funérailles de la Grande Mama. Ouais, c'était super, c'est des nouvelles.
Bon,
mais j'avoue mon ignorance crasse pour
vous
le
aussi
reste. Bon. Mais enfin, si avec ça que j'ai pas lu.
Oui,
pas
vu. C'est pour ça, la liste est longue de ceux qu'on n'a pas lu. Gabriel Garcia Marquez et Philippe Chevillé.
J'avoue aussi.
Un passe aussi.
Et en plus, je parle même pas l'espagnol, donc j'ai même pas pu lire
la version espagnole. Bon, on va peut-être essayer de se rattraper. D'ici là.
Essayer, parce que là, c'est pas glorieux.
Il y a beaucoup de choses à lire. lire. Bon, d'autres livres dans cette actualité, toujours riche. Mais non, mais bon, je demande. Parce que
je crois qu'on est plus qualifié pour parler littérature. Je vais arrêter l'émission tout de suite. Mais après non, mais. On a avoué que Garcia Marquez, on avait lu la moitié d'un.
Qui pourrait prétendre avoir lu tous les grands auteurs de la littérature mondiale? Voilà, il ne faut quand même pas. Quand même pas poussé, et je crois pas beaucoup, que beaucoup de critiques en place puissent prétendre ça, sans mentir
qui,
et honteusement.
Il y a ceux qui ne lisent que les grands écrivains, donc ça... C'est...
Oui, mais quand bien même, hein, il faudrait déjà plusieurs vies. Bon, parlons donc de George S. Schuyler. Il y a peut-être peu de gens qui l'ont lu, mais vous l'avez lu, par exemple, avec Loré, vous voyez.
Ça, c'est sûr. C'est aux éditions Wombat, ou nouvelles éditions Wombat. Black No More, ça s'intitule. C'est un roman de 1930, c'est donc pas de toute première fraîcheur. George S. Schuyler est un Africain-Américain. Qui publie. Alors c'est un personnage extrêmement étrange parce qu'il n'aura jamais été aimé finalement, déclenchant toujours le scandale. Black No More, c'est l'histoire d'un certain monsieur escroc, il s'appelle Crookman en anglais, qui a inventé. Donc on est en 1933 et c'est un petit roman d'anticipation en fait parce qu'il le situe 3 ans après sa parution. Il a inventé une méthode révolutionnaire pour être Black No More, plus jamais noir, c'est-à-dire un traitement qui en 3 jours seulement, vous êtes attaché à un fauteuil, on vous fait des injections, des trucs, transforme tous les noirs en blancs. Donc il y a des foules de noirs à Harlem qui attendent devant sa clinique, il va s'en mettre plein les fouilles comme vous pouvez imaginer, et nous suivons donc les aventures de Max qui est le premier à avoir été blanchi. Il est même devenu blond. Tout ça est, je dis qu'il n'est pas aimé parce qu'il s'est vraiment de très très mauvais goût.
Ouais.
Alors évidemment, il se fout de la gueule des blancs. Bon, ça c'est à peu près normal puisqu'assez vite, sa vie de blanc n'était pas. Bon, la traduction, parfois j'ai des doutes sur les usages de rose et noir. Parce qu'on dit tout n'est pas si noir par exemple. En anglais, je pense que c'est pas black évidemment, ni dark. Mais sa vie de blanc, je vous dis, la traduction n'était pas aussi rose qu'il l'avait envisagé. Il lui fallait bien convenir qu'elle était monotone et même ennuyeuse. Dans son enfance, on lui avait appris à considérer les blancs presque à l'égal des dieux. Désormais, il ne les jugeait plus très différents des noirs, sauf qu'ils étaient uniformément moins polis et moins intéressants, puisque maintenant, il peut fréquenter des blanches, aller dans les soirées de blancs, où il trouve que vraiment, on s'emmerde, que ces gens sont assez, assez grossiers. De toute façon, une fois qu'il est blanc, voilà, il y a des phrases comme ça extraordinaires. Il était libre, le monde était son huître et il avait le couteau pour l'ouvrir. De point, sa peau. Attendez, le mieux c'est la fin. Sa peau couleur de porc. Bon, mais il est pas très gentil non plus avec les noirs. C'est là que ça s'embrouille parce qu'en fait, ils sont tous obsédés par avoir des copines qui sont plutôt café au lait. Toutes les autres, les vraies négresses comme ils les appellent, ils en veulent absolument pas. Donc ils sont eux-mêmes pris dans des questions raciales épouvantables. Et il y a dans toute cette histoire, donc on s'aperçoit que les blancs sont complètement affreux, mais il y a quand même un résistant qui lui est pour la pureté de la race noire et qui veut défendre quand même et contre ce blanchiment à tout va. Bah évidemment tous les blancs sont contre, hein, c'est évident, parce qu'ils se disent, vous vous rendez compte, maintenant vous allez épouser un noir en croyant qu'il est blanc et vos enfants seront noirs, quelle horreur.
Ah oui, ça marche pas sur les enfants.
Non, ça marche pas sur les enfants. Et donc,
évidemment. On peut les amener à la clinique après.
Donc, il y a un abruti, mais qui a existé à l'époque. C'est une référence historique, en fait, qui lui défend la pureté de la race noire et veut organiser l'immigration de tous les Africains américains vers l'Afrique. Il s'en prend aussi plein son grade, et dès le début, de toute façon, le Toubib qui a inventé la méthode, on lui dit, oui, mais enfin, quand même, une fois qu'ils seront blancs, ils auront quand même le nez épaté. Le Toubib est africain-américain aussi, hein, ils sont tous, c'est de la blaxploitation d'une certaine façon. Il dit, non, mais enfin, on a beaucoup exagéré, les lèvres lipues, le nez écrasé, regardez, les gens du Nord, les Européens. Et donc, il remet tout ça en perspective en disant, mais c'est une invention historique, de toute façon. Il dit, puis, de toute façon, tout le monde est complètement mélangé. Enfin, la race noire, ça n'existe pas. Donc une fois qu'ils seront blancs, on verra plus du tout qui sont noirs. Donc c'est quand même extrêmement, aujourd'hui je pense que ce serait ôté des bibliothèques américaines immédiatement, ou si ça n'a pas été, si ça l'est pas déjà. Et donc voilà, c'est très drôle, c'est une satire généralisée qui remet évidemment aussi en cause la question de la classe sociale, parce que c'est toujours les bourgeois qui s'en sortent le mieux.
Et aux nouvelles éditions Wombat, Black No More de George S. Schuyler, traduction de Thierry Beauchamp. Et puis un autre livre dont il est question en ce mi-temps de dispute, Le Plus et le Moins, d'Éric Deluca, c'est chez Gallimard. Philippe Chevillier, vous vouliez nous en parler.
Oui, alors moi j'ai des choix très classiques, donc aujourd'hui... Le Plus et le Moins d'Éric Deluca, c'est un recueil de textes. On pourrait presque dire des petites nouvelles ou des petits essais. Il y en a 37. si je ne m'abuse, plus 3 poèmes à la fin. Et en fait, on a une mémoire éclatée comme ça des Derry de Lucca. C'est la façon de remonter sa vie à travers de très jolies petites vignettes, un peu sépia comme ça, toujours très nostalgique, en même temps très vive, avec beaucoup de poésie dans l'écriture et beaucoup de force dans le propos. Dès la première nouvelle, d'ailleurs, Pantalon Long le voit à l'école, qui fait sa première dissertation, qui est trop bien écrite, et du coup, le prof lui dit « c'est pas vrai », lui donne une mauvaise note, « c'est pas possible que vous l'ayez écrite ». Donc, c'est sa haine de la hiérarchie, de toute l'administration italienne. On a des passages politiques qui sont très forts. C'est intéressant, d'ailleurs, je me dis pour les jeunes de Nuit debout d'aujourd'hui de lire sa lutte politique quand il était jeune avec Lotta Continua et comment en fait il a vraiment s'est vraiment séparé de sa famille et puis comment ses parents sont venus le rechercher, l'ont accompagné dans son combat. Donc c'est une espèce d'hommage à ses parents permanent, hommage aussi dans la lecture puisque avec son père et puis après c'est lui qui a fait lire par sa mère le premier livre à son père. C'est des passages assez émouvants. Il y a même un conte de Noël qui est très, parce qu'après on est dans la partie où Éric de Lucca devient ouvrier, il est obligé de partir en France parce qu'il commence à être un peu menacé par sa lutte politique, ses luttes syndicales assez violentes, et il se retrouve dans une entreprise en 82 à Noël qui veut pas les payer, donc ils occupent l'entreprise et il est avec des ouvriers musulmans qui lui posent de tas de questions sur Noël, et lui évidemment il est athée, mais enfin il explique un peu les choses, et même si évidemment il connaît très bien la Bible.
Oui, ça c'est après, sur les chantiers en Afrique. Hein,
voilà.
C'est pour la lecture de la Bible.
Voilà, mais bon, à ce moment-là, et le soir de Noël, en fait, les ouvriers musulmans lui ont préparé un repas de Noël, et c'est un moment très fort dans le livre. Et puis alors évidemment, il y a des côtés très sombres, donc un pessimisme, mais en même temps, il y a ces passages très beaux sur Naples, sur l'île d'Ischia, où il va se baigner. Il y a une nouvelle qui est presque érotique sur l'île elle-même, où il épouse vraiment l'île. Et puis des moments amoureux aussi où il se livre un petit peu sur ce premier baiser, une étreinte, la cuisine. Enfin, on a tout passe en revue. Et malgré ce côté sombre, il y a un petit, il y a toujours ces lueurs aussi et qu'on retrouve d'ailleurs ce poème, si vous voulez, qui est assez court, que je peux vous lire, qui s'appelle Et maintenant. Elle arrive à l'improviste, elle dure autant que les cercles dans l'eau après la pierre, elle interrompt les pensées, la mélancolie, elle est sans réservation, sans rendez-vous, la mystérieuse miette du bonheur. Celui qui la reconnaît trop tard lui fait un signe à la mémoire du temps où elle était là et il ne la connaissait pas, il veut souffler dessus mais inutile, l'étincelle de la braise ne part pas, alors je l'ai à l'œil, le nerf prêt à la secousse électrique, maternelle, pyrotechnique du bonheur, la voici, c'est maintenant. C'est joli.
Éric de Lucca, la traduction de
la traduction
ouvrage.
Est de Daniel Valin.
Daniel Valin pour Le Plus et le Moins, c'est aux éditions Gallimard. Dans quelques minutes, on va parler du livre de Joël Aigloff, J'enquête chez Buchet-Chastel. Avant cela, on retrouve l'invité de la dispute pour la dernière cette semaine, musicien et compositeur Bachar Mahalifé, dont on peut retrouver l'actualité sur le site franceculture.fr à la page de l'invité de la dispute. Bachar Mahalifé, on termine cette semaine ensemble en parlant des livres. Alors, là encore, le continent est si grand que c'est un peu compliqué parce que vous le disiez, notamment pour l'émission Art Plastique mercredi, que vous n'aimiez pas trop intellectualiser les choses, en savoir plus forcément sur les artistes que vous aimiez. Alors je ne sais pas si du coup les essais, ça ne doit pas tellement vous intéresser de savoir quelle était la vie de Kurt Cobain ou de... Ah quand même, il peut y avoir des choses dans les livres.
Vous touchez une corde sensible quand vous dites Kurt Cobain.
Bah, j'ai bien compris.
Évidemment, j'ai lu, mais je me sentais un petit peu mal. J'ai lu son journal intime qui est sorti, je sais pas, il y a quelques années.
Ouais.
J'ai pas pu m'empêcher de le lire parce que c'est quelqu'un qui m'a quand même accompagné pendant plusieurs années sur toute mon parcours musical. Il était toujours là. Je l'écoutais toujours. Et même aujourd'hui, mon amour pour son œuvre a stagné. Je n'ai pas pu m'empêcher de lire ce livre, mais je vous avoue que j'ai eu un petit peu de mal j'avais l'impression de rentrer dans une intimité qui n'était pas c'était pas prévu.
Il avait pas choisi de dévoiler
exactement.
Ça.
Exactement. Mais bon, je l'ai lu quand même. J'en ai gardé beaucoup, beaucoup de choses, mais j'ai un rapport très, très, très pudique avec ça, avec, avec ses, la vie d'eux, etc.
Mais du coup, est-ce que vous avez un goût pour la fiction, pour la poésie, pour d'autres types de littérature?
Ce serait évidemment la poésie, les livres de, les poèmes de Gerasim Luka, qui aussi, dans la forme, ont un peu explosé aussi la langue et les mots et l'orthographe et la mise en page. Tout a explosé et je pense aussi que ça demande beaucoup de courage pour imposer ça, finalement, et d'éditer ça. Il y a évidemment aussi un livre de Rilke, qui est Lettre à un jeune poète, qui m'a aussi accompagné pendant quelques années. Cette relation du poète à un disciple, entre guillemets, ce que j'en ai retenu le plus, c'était que le poète, en fait, apprenait aussi beaucoup de cet échange. En écrivant, en donnant un peu des leçons, entre guillemets, de vie, je pense que ce poète a grandi au contact du plus jeune. Et j'avoue que j'ai un peu la même sensation aujourd'hui sur scène, puisque j'ai mon batteur qui a 18 ans, et qui a donc presque la moitié de mon âge. Et je crois que lui a l'impression d'apprendre beaucoup avec moi, mais je crois que c'est surtout moi qui apprends beaucoup avec lui, sur scène.
Nous poursuivons cette dispute consacrée le vendredi soir à la littérature avec J'enquête, titre du roman de Joël Egloff qui vient de paraître chez Buchet-Chastel.
There's a long goodbye. And it happens every day when some passerby invites your eye to come his way, even as he smiles a quick hello. You've let him go, you've let the moment fly. Too late you turn your head, you know you've said the long goodbye. Can you recognize on some other street, two people meet as in a dream.
Voilà un film pas si vieux, mais qu'il faudrait reprojeter en salle, Le Privé. J'ai pris le prénom Robert Altman dans cette musique extraite, Le Privé. Alors plutôt que de résumer l'intrigue du livre, il me semblait plus pertinent de lire le tout début, ce que je vais donc m'empresser de faire. Le livre de Joël Egloff s'appelle J'enquête, il est publié chez Buchet-Chastel, il commence ainsi. À la gare, personne. J'ai posé mon sac à mes pieds et j'ai regardé autour de moi. Comme j'avais demandé qu'on soit discret, qu'ils ne viennent pas m'accueillir, surtout avec mon nom inscrit en grand sur un carton qu'ils brandiraient aux yeux de tous, j'ai pensé qu'ils se tenaient peut-être un peu à l'écart et n'apparaîtraient qu'une fois l'endroit redevenu désert. Mais ce ne fut pas le cas. J'ai ramassé mon sac, j'ai fait quelques pas dans le petit hall, puis je suis sorti pour m'assurer qu'ils n'étaient pas en train de m'attendre dehors. La nuit tombait déjà, sous la neige, les dernières voitures quittaient le parking sans bruit. Il y en avait une qui stationnait là-bas le long du trottoir, occupée par deux personnes dont je ne distinguais que les silhouettes à cause des reflets du réverbère sur le pare-brise. Pensant qu'il pouvait s'agir de mes clients, j'ai attendu un moment à la même place qu'ils remarquent ma présence et, comme ils tardaient à réagir, j'ai fini par esquisser un signe de la main pour attirer leur attention. C'est alors que la voiture a démarré en patinant et s'est lentement avancée vers moi. Persuadé qu'ils allaient s'arrêter à ma hauteur, je me suis approché du bord du trottoir, mais ils me sont passés sous le nez et je suis resté là, hébété, à les suivre du regard jusqu'à ce qu'ils s'engagent sur la route et disparaissent de loin. J'ai soufflé sur mes doigts engourdis et soudain me suis rendu compte que j'avais oublié mes gants dans le train et mon bonnet également, dans lequel, justement, j'avais pris soin de mettre mes gants pour éviter de les perdre. J'ai patienté encore un peu, faisant les 100 pas sur le trottoir, puis me suis décidé à retourner dans la gare pour attendre au chaud. Ça nous fait déjà rire, hein, Eric, de lire ça, Eric Loret. C'est une bonne idée de mettre ses gants dans son bonnet pour pas les perdre, mais d'oublier le bonnet.
Bah oui, alors, bah, c'est toutes les, là, vous avez, en fait, spoilé, grave, l'intérêt littéraire de ce livre.
Bah non, j'ai indiqué, alors.
Mais du point de vue.
Vous avez de la chance, vous savez quoi?
Du point de vue de l'écriture, après, c'est 200 pages comme ça, de toute façon.
Oui, mais spoilé vient de rentrer dans le petit Robert, ce qui m'a consterné, mais.
Divulgaché,
Voilà, donc c'est divulgaché ici, normalement.
Et pas Page Turner.
Et Page Turner n'est pas rentré dans le petit Robert.
C'est
et...
tellement bien, il n'y a pas de traduction pour Page Turner.
Eh bien, trouvez-la.
Page, on peut dire.
Il faut demander aux Québécois, ils doivent certainement avoir ça. Donc, Divulgaché nous vient du Québec, employez-le. Oui, ça nous a fait rire, déjà.
Oui, alors, pourquoi ce livre a-t-il été choisi par moi-même?
Vous faites les questions, parce que je vais aller faire un tour, sinon c'est la fin de l'émission.
Alors,
vous avez choisi ce livre, Eric Loret?
Pendant de longues années de carrière, chaque fois qu'il y avait un Joël Egloff, je l'ouvrais, je me disais, ça a l'air drôlement bien, faudrait que je le fasse, et j'en ai jamais chroniqué aucun. Donc là, je me suis vengé. Je me suis dit, tiens, je vais l'ouvrir. Alors, je fais pas comme vous, moi, je les ouvre pas à la première page, je les ouvre au milieu. Donc, je suis tombé sur une autre page.
Quelle horreur.
Ouais, non, mais je vous dis quand même, je suis tombé sur un paragraphe très court. Une dame âgée est à... je suis désolé pour les auditeurs, ils auront lu tout le livre, comme ça, presque. Une dame âgée est alors entrée dans la salle avec un petit chien dans les bras. Elle a regardé autour d'elle et, après avoir hésité un instant, elle a pris place à une table dressée pour deux près de moi. Je l'ai saluée. Elle m'a souri. Et considérant son chien qu'elle avait pris sur ses genoux, pour lui être agréable, je lui ai dit qu'il ne lui manquait que la parole. Et la vue aussi, malheureusement, m'a-t-elle répondu en caressant l'animal comme pour le consoler. Donc je suis tombé là-dessus, je fais bon, ça a l'air génial.
Ouais, et... j'ai failli lire la fin aussi, vous savez. Non, mais c'est vrai. Hein, parce que
on va peut-être dire de
aussi
quoi.
Délicieux.
Aussi, c'est moi qui vais lire la fin.
Non, on va pas faire ça quand même.
On va peut-être dire de quoi il retourne.
Bah, je crois que tout est dans le titre, non?
De quoi il retourne pas.
J'enquête.
Voilà, c'est une enquête donc
sur un kidnapping.
Et je vais dire un peu de mal quand même parce que donc malgré la drôlerie évidente de ce non-héros à la première personne. Qui est donc un détective privé, qui n'est pas du tout détective privé, puisque avant il était... Guardian Square, qui régulièrement appelle sa femme, il ne dit jamais ma femme d'ailleurs, ouais. Il dit je l'ai appelée,
ouais.
Et eux. Et bon, il y a les enfants au mal à la gorge, ils ont des problèmes, la chaudière...
Vous avez tout raconté ou... On voulait parler du chauffagiste aussi ou pas?
Non, tout ça, on s'en fiche complètement. Ce personnage, est, comme vous l'avez... évoqué, arrive en train dans un village où le prêtre l'a engagé, enfin on sait pas trop, pour retrouver, je ne vous le dirai pas, il y a eu un vol, oh pardon, un enlèvement, corrige-t-on à chaque fois,
ouais.
Donc il y a eu un enlèvement extrêmement important, bon évidemment c'est une blague, c'est passé n'importe quoi, et le personnage enquête, comme vous l'avez bien dit, c'est-à-dire il faut bien entendre, j'enquête pas sur quelque chose, mais j'enquête. Et effectivement, il n'y a pas d'objet pratiquement pendant tout le livre, et c'est essentiellement constitué de toutes ces bévues, oublier des choses, écouter. Alors il est à l'hôtel, il entend, alors ce qu'on imagine, la prostituée du dessus qui pousse des cris de jouissance simulée, par exemple. Donc il dit quand même ça suffit, il en a marre, il met la télé plus fort. Enfin donc c'est une espèce de petite vie tranquille comme ça d'un mec sans histoire. Histoire qui néanmoins enquête sur rien parce qu'il a quand même un grave problème, ça je crois qu'il faut le divulgâcher à un moment, c'est qu'il peut pas faire de filature tant qu'il a pas acheté des bottines, ce qui arrive à peu près à la moitié du livre.
Oui, bah, c'est-à-dire qu'il attend son enveloppe d'avance.
Voilà, il peut pas marcher. Et là, je trouve que au moment où il achète ses bottines, Egloff ne résiste pas.
C'est un peu le climax. Hein,
quand même. Oui, bah oui, il résiste pas à la tentation de nous éclairer sur sa méthode d'écriture et sur le principe même de ce livre. Bien que je fusse impatient de mettre mes nouvelles bottines à l'épreuve au cours d'une longue filature, j'ai jugé bon d'attendre encore un peu que le cuir se détende et de trouver aussi un suspect digne d'intérêt à filer. Donc, je trouve ça absolument extraordinaire. C'est ça, c'est-à-dire que évidemment, c'est l'objet qui vient avant l'action d'une certaine façon, la bottine vient avant l'enquête policière, donc il n'y a pas de personne à filer, donc on va rester comme ça, et tout est écrit de cette façon en réalité. On attend que quelque chose se présente qui pourrait mener l'action, et elle n'avance pas. Et c'est là que je voulais dire du mal, et j'ai oublié, je me suis un peu emmerdé en fait.
Ennuyé.
Pendant, oui, si vous voulez.
Non, j'y tiens.
Bon, je me suis beaucoup, non pas beaucoup, je me suis un tout petit peu ennuyé pendant un certain temps, jusqu'à ce que je m'aperçoive que j'étais fasciné par cette enquête. Et chaque fois que je posais le livre, je n'avais plus qu'une envie, c'est d'y retourner pour savoir ce qui n'arriverait pas. Après, non pas ce qui allait arriver, parce que je savais bien que rien n'allait arriver, mais les...
Donc c'est voilà. Pas une réserve, c'est un compliment.
Oui, mais au début, on se dit, bon, on voit bien que ça va nulle part, et ça va tellement nulle part jusqu'à un certain point qu'on est curieux de savoir quelle va être la teneur des dialogues avec l'hôtelière, le avec le prêtre, voilà. Donc il y a quand même un vrai suspense, en tout cas, psychologique.
Oui, alors moi, j'avais jamais lu Joël Egloff, donc déjà, je vous remercie pour cette découverte, mais je m'aperçois qu'effectivement, il a publié quand même un certain nombre de livres aux éditions du Rocher d'abord, puis chez Buchet-Chastel depuis une bonne dizaine d'années. Philippe Chevillier, j'enquête, Joël Egloff.
Moi, j'ai découvert aussi cette enquête et je suis un fan de Sherlock Holmes. Alors là, c'est bien parce que c'est du Conan Doyle, hein, parce qu'il trouve quand même des indices. Hein,
énorme. Voilà.
Oui. Et c'est un roman d'atmosphère, c'est presque un roman policier de Noël parce qu'on est sous la neige. C'est extraordinaire de voir évidemment ce personnage un peu. Alors c'est un peu en attendant Godot, on attend le coupable, on attend l'objet du. On attend de savoir oui le résultat de l'enquête. On a une enquête qui commence jamais vraiment, qui finit jamais. Je trouve ça assez beau. Moi j'ai beaucoup ri aussi. J'aime beaucoup tous ces personnages très affairés, très occupés à ne rien faire en fait. Ils ont toujours des trucs, ils sont toujours dans l'urgence alors que vraiment il se passe rien. Cette description,
ils ont piscine.
Le prêtre est assez amusant. Il y a aussi la description de la ville avec le restaurant de luxe qui est sinistre, le kebab qui l'est encore plus, c'est-à-dire les gens sont odieux. Et finalement, c'est ce que vous disiez, il y a des moments où on se dit, bon, il se passe vraiment rien, mais est-ce qu'on va arriver à continuer comme ça, à s'amuser à ce qu'il se passe vraiment rien? Et je trouve que ça prend, et ça dessine une espèce de fable comme ça, sur une espèce de perte de pied des hommes, perte de sens dans la banalité du quotidien que l'on connaît finalement, et il suffirait pas grand chose pour qu'il se passe rien. Et je trouve que c'est
quand même assez... C'est une belle phrase, ça suffirait pas grand chose pour qu'il se passe rien.
Allez, il faut la noter pour une prochaine, effectivement, revue de presse. Il suffirait pas grand chose pour qu'il se passe rien. Bon, et vous avez trahi le fait qu'il se passe quand même un peu des choses.
Un tout petit peu
qu'on raconte.
Il y a un indice énorme.
Voilà,
exemple.
C'est la chaudière.
Non,
c'est pas ça.
Un petit bout de tissu.
Ah oui, une bouloche.
Une bouloche
bleue, ça, elle est très, très
bleue.
Non, je suis absolument d'accord avec Philippe Chevy sur le côté Beckettien. On se dit, mais ça fait penser un peu à du Chevillard ou à certains romans de Minuit qui travaillent justement...
Austère aussi.
Voilà, Christian aussi. Qui travaille moins le style quand même. C'est-à-dire, c'est écrit dans une langue... pas accessible, mais si, enfin d'une certaine façon plus facile à lire, quoi, ou disons où les trucs de littérature sont moins mis en avant, et tout en me demandant pourquoi je le lisais, quand même arrivant à la fin, je trouvais que c'était parfait et que c'était évidemment pour moi le contraire de Colm McCann, c'est-à-dire que ah oui, face aux destinées admirables de tous ces gens virtuoses, c'était mon histoire, quoi. Qu'est-ce que je fous là, de toute façon je sers à rien. La vie, ça a pas de début, pas de milieu, pas de fin.
Vous avez pris vos cachets, Eric, ou...
oui, et encore heureux. Et donc, ça me semblait correspondre au côté what the fuck de l'époque, quoi. Qui était, rien. Et conclusion, rien, pas grand chose. Et on peut même pas dire qu'il y a, c'est même pas Beckett, oui, continuez, il faut continuer, je continue. Là, il y a pas la moindre question de dignité ou d'espoir. C'est vraiment, on est dans ce ventre mou de la réalité.
C'est plus un privé chez Emmanuel Beauve, quoi.
C'est un peu cette brouillasse où on sait pas quoi penser, où plus rien n'a vraiment d'importance.
Il faudrait peut-être faire ça, puis non, en fait, et puis quelque chose. C'est quoi la phrase? Tu ferais pas grand chose pour que.
Que quelque chose soit intéressant, hein.
Oui, c'est ça.
Même les choses qui se passent, qui sont désagréables ou agréables, son désir, ouais. Le désir qu'on voit très bien dès le début pour la femme de l'hôtel, tout ça est assez détumescent, quoi, d'une certaine façon. Il n'y a pas d'élan,
Philippe Chevillier.
Mais c'est un complément de le dire. Si on prend l'émission en route, cette détumescence.
Ce qui crée notre dépendance à ce livre de Joël Eglove.
Exactement.
Comme je citais Conan, je me dis, est-ce qu'il va y avoir une suite? C'est-à-dire que je le verrais bien enquêter dans une petite ville du Sud, l'été.
Vous ne vouliez pas lire la dernière page, justement. Non, mais,
justement, pour rester dans les anglicismes, il y a un tel cliffhanger à la fin du livre que forcément, il y a un 2 qui arrive, j'enquête, le retour. J'enquête la suite, on l'attend impatiemment. Ouais. Les aventures de ce nouveau détective privé. Je suis pas sûr que ça fasse un blockbuster tout à fait, mais par contre, il y a un cinéaste qui pourrait vraiment s'emparer d'un personnage comme celui-là. J'enquête de Joël Eglove, on recommande tous trois. Chaleureusement, cette lecture qui, à nous entendre, pourrait paraître assez improbable, mais qui évidemment
est absolument
réjouissante. Et c'est publié chez Bûcher Chastel.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Et pour conclure cette émission, le jeu de la dispute, et on profite encore de l'absence d'Antoine Guillot pour cette séquence du jeu, puisque ce soir j'ai la joie d'être avec Flora Isidore qui va m'accompagner dans cette séquence, et Flora qui va d'abord nous rappeler ce qu'on a gagné hier soir, enfin pas nous mais nos auditeurs.
Hier, vous avez gagné des invitations pour aller voir au cinéma l'exposition « Peindre le jardin moderne » de Monet à Matisse de la Royal Academy of Arts de Londres.
Bon, ça c'est très bien. La question était...
On vous demandait de quel jardin étranger Monet s'était inspiré pour créer le sien à Giverny.
La réponse ?
Des jardins japonais.
Voilà. Ce soir, à gagner des places pour une représentation de Hunt, pièce de Howard Barker, mise en scène par Jacques Vincé, avec Nathalie Dessay, un spectacle absolument remarquable. Nathalie Dessay, impressionnante dans ses vrais grands débuts de comédienne. Les places sont à gagner pour mercredi 25 mai à 20h à la Comédie de Valence. Quelle est la question, Flora ?
La cantatrice Nathalie Dessay est connue pour sa puissance vocale dans les aigus, mais jusqu'à quelle note peut-elle monter ?
Ah, votre réponse, ainsi que vos coordonnées postales, sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Et ainsi s'achève la dispute de ce soir. Merci à vous, Éric Loret, Philippe Chevillier, Émilie Chaudet et Flora Isidore d'y avoir pris part avec moi. Toutes les informations sur cette émission sont à retrouver sur le site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez vous abonner au podcast de cette émission et un site sur lequel vous pouvez aussi nous écrire. La dispute est possible grâce à Hugo Boursier, Émilie Chaudet, Daniel Finot, Antoine Guillot, Flora Isidore et Virginie Ledio qui la conçoivent et la préparent à mes côtés. Prise de son assurée ce soir par Pascal Bénard, réalisation signée Daniel Finot. Je vous donne rendez-vous lundi à 21h pour une dispute consacrée au spectacle vivant en compagnie de Joël Gaillot et René Solis. À notre affiche, La Mouette d'Anton Tchekhov, mise en scène par Thomas Ostermeyer. Et Nous sommes repus mais pas repentis, déjeuner chez Wittgenstein, d'après Thomas Bernard, mise en scène Séverine Chavrier. Je passerai un coup de fil à la comédienne des Chiens de Navarre, Anne-Élodie Sorlin. Nous retrouverons Antoine Guillot, retour de Cannes pour la revue de presse culturelle de la dispute. Les choix du comédien et metteur en scène Michel Faux, qui sera l'invité de la dispute toute la semaine prochaine. Il y aura bien sûr un nouveau cadeau à gagner. Tout cela, c'est pour lundi. Avant cela, vos programmes se poursuivent sur France Culture à 22h15, hors champ par Laure Adler, et dans quelques instants, le journal de la rédaction.